RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bon, j'ai décidé que vous pourrez maintenant vous mêler de ce qui vous regarde. Oui, c'est normal, hein ? Maintenant, si vous voulez dire que Macron n'est pas à sa place, vous pouvez le dire. Si vous voulez dire que Brigitte Bardot, elle a trop vieilli, vous pouvez le dire. Si vous pouvez, l'âne batté, a été battu, vous pouvez le dire, vous voyez ? Hein ? Bon, allez, bonjour. Hein ? Et Jaco, exceptionnellement, à midi, je voudrais que tu me fasses des ortolans fricassés. Tu sais, ces petites bêtes-là que tu manges, il faut manger tout, même les os, parce que les os sont fiables, tu vois. Tu mets ça dans la bouche, et il paraît que ça c'est pas beau à voir. Alors, il faut mettre un torchon sur la tête pour les manger, tu vois. Alors, tu prépares deux torchons, hein. Enfin, tu fais ce que tu veux, du moment que tu mets un torchon à moi, et que je puisse pas voir comment tu manges salement. Bon, c'est pas grave, j'aurai le torchon devant les yeux, hein. Bon, allez, on va faire autre chose maintenant. Alors, le professeur Guinanoek, voilà. Il a fait deux poèmes sur la poésie, ouais, figurez-vous. Le plus truculent, je vais vous le lire en dernier, de façon que vous puissiez vous reposer un petit peu vos méninges. Poésie. Non, Dieu n'est pas poète, puisqu'il les assassine avant qu'ils aient vécu. Et les vautours se pensent sur leurs frêles dépouilles, et Dieu les laisse faire, et Dieu les encourage à fouiller dans leurs tripes, à manger leur cervelle. Mais si Dieu est poète, et c'est même le plus grand. Il a créé le ciel, la terre, la lune, la mer, et le pipi-caca. Oui, où seraient les poètes sans tous ces bons mots-là, hein ? Mon pote le poète. Entre parenthèses, opérationnel. Mais attention, hein, en trois mots. Opérationnel. Hein ? Ne pas confondre opérationnel. Hein ? Mon pote le poète est un poète au paix. Il fait des vers de son derrière. Il poétise avec son cul. Il sort des rimes de son colon qui résonnent autant qu'une enclume. C'est du Rimbaud, c'est de l'Orphéon. Parfois, sa musique devient douce et son anus si mélodieux que les sons deviennent source et ses vents presque silencieux. Mais soudain, l'orage gronde et dans une ode de tonnerre jaillit comme un soufflet au monde l'envie de faire, l'envie de faire. Voilà, vous voyez ? Bon, ben maintenant, vous pouvez aller aux toilettes. Bon, allez. Ouais, bon, il est un peu spécial, lui. Hein. Bon, je reconnais, mais bon, on va pas. Alors, il a un jeune homme qui a justement fait un poème sur lui. Et c'est certainement quelqu'un de sa famille, ça doit être, je pense, son petit-fils. Osiris Malbank, donc le fils de Daniel Malbank. Alors, le titre, c'est Guinanoek. Ouais. Et il dit Guy l'aîné, Guinanoek, il va rester. En 29, dans le 29, un jour d'armistice, naquit Guy, lutin breton de Malice. Oui, enfin, ils savaient qu'ils étaient de Bretagne. Arriviste pour la paix et l'égalité. Guy, il est né. Guinanoek, il va le rester. Bateau échoué. Le papa Xavier amputé. Messieurs, les forces de l'Axe, tirez les premiers. De mes 11 ans, résilience. C'est mon sommier. Donc ça veut dire qu'il a écrit ce poème à l'âge de 11 ans. Mais ce jeune homme a eu un prix d'orthographe au niveau national, le premier prix d'orthographe au niveau national. Et en ce moment, il est à, comment ça s'appelle, l'aéroport de Bordeaux. Et c'est lui qui gère, et qui gère les vols des avions. C'est-à-dire qu'un avion qui doit partir de, on va dire, l'aéroport de Bordeaux, hein, qui doit aller par exemple à New York, c'est lui qui décide les horaires. La vitesse, il faut tant d'essence, hein, d'essence ou de kérosène, je ne sais pas, et selon les cas, des escales, vous voyez, avec l'heure d'arrivée, les départs et tout. Il chronomètre tout ça à l'avance, en fonction de toutes les données qu'il a. Vous vous rendez compte, c'est une tête, le mec. Hein. Alors, je continue. De mes 11 ans, résilience, c'est mon sommier. Qui, il est né, il y en a qui va le rester. Chez Citroën, à la famille Souvenir, monter, limer, souder, réparer, ajuster son existence, que le mieux chasse le pire. Guy, il est né, Guinanoek va y rester. Dans les yeux de Jacqueline, là, fusionné, au courant de l'amour, toujours s'abandonner, pour l'éternité, se vouer fidélité. Guy est né, ouais, bon, il va le rester, ouais, d'accord, bon, il va tellement bien le rester qu'on le raconte à chaque paragraphe. Hein. Bon. Le pire avant le mieux pour les paumés et gueux et ceux comme toi, que la vie fait bien déguster, ces fleurs du mal, à quoi bon être rugueux. Guy est né, avec le fils Daniel, donc Daniel Malbranque. Plutôt dada que Niel. Oh, il est fort, le gamin. Les neurones, cultivés le rire et le miel, rempart des Big Brothers, en quête de nous pister. Guy est né, et quand ce trou du cul de cancer vient vous faire chier, fumer la vie, tel un cigare comme un amaste, ah, et la poésie, mon préféré pistachier, dans lequel je croque, je m'en moque, sans équivoque, complètement loufoque, baroque, toc-toc, phare rassurant dans ce monde qui suffoque, Guy est né, Guénolec, je resterai. Voilà. C'est beau, hein ? Un petit-fils qui... Hein ? Donc, c'est une famille de poètes. Osiris, le petit-fils, le père, Daniel, et Guénolec, le grand-père. Vous voyez ? Ah ouais. Une famille de poètes, bon, comme c'est beau. Hein. Moi, je j'ai pas eu ça dans ma famille. Oh, c'est tout juste si ça avait lire et écrire. Il y a quoi ? Qui a eu mon certificat d'études primaires. Hein. Oh, il était bien primaire, hein, je peux vous le dire, parce que là, j'ai arrêté après. Hein. Je n'ai pas voulu continuer parce que c'était chiant, c'était chiant. Et toute la journée derrière un bureau avec un banc et à côté un monsieur qui était sur un piédestal, vous vous rendez compte ? Et qu'il nous tournait le dos des fois pour écrire au tableau, vous vous rendez compte ? Hein ? Alors on en profitait des fois pour... Et puis une fois, il y en a un qui avait parlé, alors il se retourne et puis dit « Mélier !» On parle moi. Mais c'était pas moi qui avait parlé. Et vous savez ce que je lui dis d'un seul coup ? Il ne faudrait pas vous gourer de mannequins, que je lui dis à mon prof. Il dit quoi ? À la direction, chez le directeur. Moi, j'avais 13 ans, oui, parce que c'était une année avant le certificat d'études primaires. Mais bon, il faut bien rigoler dans la vie, hein, et tout jeune si possible. Allez, Yasmine Neva, La Pastora.
Pastora, io ami una già hermosa, de mici che io l'adori, ma scheano a mi, de mici che io l'adori, ma scheano a mi.
Un dia che estavamos en la huerta sentados, le dije yo por ti mi flor, me muero de amor. Le dije yo por ti mi flor, me muero de amor.
Sus brazos me apretó, con amor me besó, me respondió con dulzor, sos chico para amor, me respondió.
Grande si la busqui, otro tomo yo la pedirí, ella se olvidó de mí, mas siempre no la amí.
Ella se olvidó de mí, mas siempre yo la amí.
Voilà, alors... Bon, Yanis, comment ça s'appelle Yasmine Lévy, c'est pas la peine que je vous en parle. Hein. Ça fait un bail que je vous en parle d'elle. Hein. Alors là, j'ai un poème qui vient d'Afrique. Il a été écrit dans le ciel au-dessus de l'Algérie, dans l'avion donc, le 1er avril 2004, à 21h45. Alors, je revenais de Bobo Dioulasso. Et j'ai appelé ça un vol nostalgique. Parce que ça m'emmerdait de rentrer, quoi, en quelque sorte. Hein. Le grand oiseau blanc avait embarqué dans son flanc les toubabous. Alors les toubabous, c'est les vieux, hein, là-bas. Et les enfants de couleur. L'Airbus, le monarque, buvait l'air du ciel au-dessus du désert pour se désaltérer avant de se poser sur l'épaule étoilée de Charles de Gaulle, transformé en tarmac. C'est Charles de Gaulle hein, qui a été transformé en tarmac. Hein. Les travées et fauteuils prenaient la couleur des passagers dans cette gamme qu'aucun peintre n'aurait osé assembler sur la toile grise des nations. Rasta africain, faux semblant de Sœur Teresa, musicien blanc, sifflant un merlot rouge à 12 degrés, nymphomane, ridé par le temps, d'en user souvent en passant par le gendarme, le pharmacien et ce poète, écrivant sur ce monde fantastique. La grande salle volante à mal manger se composait d'une société disparate mais bien réelle. Les bébés métis admiraient les vrais bébés. Les vrais regardaient le ciel africain, fuir devant ses responsabilités comme le père ignorant ses enfants. La nuit avait poursuivi son envol, détenu en rattrapant l'heure d'été, juste au-dessus de la grande bleue capricieuse. Les looks frôlaient le voile d'une religieuse. Une flûte s'offrait aux lèvres d'une femme enfant, pendant qu'un chasseur de lions racontait comment capturer un papillon. Un Belge de Bruxelles consultait sa montre à l'envers pour connaître l'heure d'arrivée du Thalys. Oui, parce qu'à partir de Roissy, il fallait qu'il prenne le Thalys pour aller à Bruxelles. Je l'ai pris, moi, mais pas de Roissy, moi, je l'ai pris de la Gare du Nord. Bon. Le steward noir de peau regardait l'hôtesse blanche, blanche de peur, pour son premier vol au-dessus de l'Afrique. J'avais encore l'odeur de cette poussière rose de Bobo et de Ouaga, malgré les 12 000 pieds qui piétinaient sur les nuages au-dessus de l'ombre. Les musiciens blancs rentraient en ayant croisé leur culture électronique contre des calebasses et des bouts de bois précieux pour mieux rythmer sans pouvoir s'accorder la moindre note à l'arrivée. La petite métisse courait au gré des parents entre deux incontinences, sans jamais savoir où était la case départ. Elle se promenait entre un rêve africain et un cauchemar européen pour en boire le café au lait en revenant têter sa mère au sein resté blanc. 300 âmes changeaient l'heure. On était 300 dans l'avion. Hein. Alors, attendez, changer d'heure sans en décaler vraiment leur mentalité. À l'heure du sommeil couchant, les yeux prenaient un peu de repos pour éviter le regard brillant des étoiles au travers du hublot. Moi, je ne voyais que les yeux brillants de la Bobo de Bobo dans ce ciel étoilé. Son souvenir flottait dans mon âme pour y déposer parfois 1000 sentiments en même temps. En même temps. Mais en même temps. Voilà, vous avez compris. C'est ça le problème de réciter un texte qui a été écrit pour faire des jeux de mots, vous voyez. Bon, alors c'est pas grave. Sa fille et sa mère me ramenaient à la réalité qu'il me fallait les aimer comme le père, le fils et le simple esprit du village. Les rêves dans un avion avaient-ils de la véracité ou l'artifice d'un ciel dégagé de toute responsabilité? Les anges m'avaient offert des ailes de soie blanche afin de retourner vers mes souvenirs migrateurs quand mon âme se sentait bien seule et loin d'elle. Voilà. Pom, 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 pom. C'était donc un vol nostalgique, hein. Voilà, j'allais retrouver mes petites habitudes à Périgueux, ouais, hein. Ma chambre, mon chat, mon litre de vin rouge. Bon, oh, c'est triste tout compte fait. Bien, alors, tiens, Tahar Ben Jimoul, vous connaissez, les Amandés sont morts de leurs blessures. Bah oui, c'est évident, on nous l'avait déjà dit d'ailleurs. Mais les Amandiers, c'est pas comme... Alors je cherche un poème parce que... Le problème, c'est que Tahar, il a écrit des poèmes trop longs, que je ne peux pas lire à la radio, parce que sinon, il me faudrait une émission de 3-4 heures à la suite. Alors, attendez, il me semble... j'ai trouvé. Mort d'un charlatan. Que ne puis-je être de ceux qui se consument dans l'opium quotidien, vont de café en névrose, de névrose en suicide, ceux qui assistent le cœur ficelé, le crime pardonnable du charlatan qui crée la foule, le mythe et la légende. Oh, c'est beau, ça. Oh, monade tressée. Ah, c'est pas moi, hein, bon. Parce qu'ils l'ont mis au pluriel. Moi, j'ai qu'une seule natte. J'en ai pas deux, hein, bon. Au crâne fendu. Ah, ouais, c'est pas moi non plus. Tu avales une poignée de clous et de mots. Arrache tes paupières. Épingle ton front sur dos de dromadaire. Creuse une énigme dans la paume de ta main. Tu exposes tes tripes au soleil. L'homme au crâne fendu avale une boule de feu. Ne tend plus sa main. Ne parle plus au nuage. Mais la pierre au chant des femmes de l'Atlas hurle. La vérité et les roses logent dans d'autres cieux, pour d'autres peuples, hurle dans le harem du maître. Femme nue des rêves de cendre, reviens percer tes mes veines, reviens me conter l'histoire du mirage étouffé. Mohammed, prophète, et moi, son serviteur, usé par la prière et l'attente, je tourne sur place au rythme de la gorge tranchée. J'invente des moussems à profilant. Et toi, Ya Moulay Abdeslam. Vas-y, Wali Allah. Je ne me roulerai plus à ta face, Muret. Je ne me crèverai plus les yeux pour ton souvenir, révolu le jour ou pour ton étoile. Je me nourrissais d'herbes sèches et de serpents venimeux, révolu les nuits où je dormais dans le gouffre d'immensides pour mériter ta bénédiction. Aïe, aïe, Wali Allah. Je t'adresse mon dernier salut. Il contient le verbe subjectif. Je dis à l'ombre de ton regard l'imposture. Voilà. Je ne vous dis pas la suite parce que après il y a 3-4 pages. Bon. Hein. Je suis là pour faire des poèmes courts. Hein. Je ne suis pas là pour faire. Lire des livres en entier. Hein. Ben non. Il faut acheter un livre dans ces cas-là. Hein. N'attendez pas de moi que je vous lise un livre en entier. D'abord, en une demi-heure, je n'aurai jamais le temps. Hein. Arthur H. Il parle de Bo Derek, vous savez, cette fameuse artiste américaine.
Elle est sortie de l'eau et le soleil dans tout sa peau, c'est beau. Bo Derek. Le sable est trop chaud, Aldo la porte jusqu'à la moto, c'est beau comme Bo Derek. À la villa, les vins sont prêts et les Anglais sont déjà là. À la villa est douce et bonne, même en automne, c'est beau comme Bo Derek. Aldo n'en peut plus, il monte sa moto, part vers l'inconnu, c'est beau.
Un poème que j'ai écrit très triste, parce qu'il concerne mon épouse qui est décédée. Je l'ai écrit en 2008. Ça dure pratiquement 6 ans avant qu'elle décède, mais elle était déjà très malade et elle n'était déjà plus à la maison. Ça s'appelle L'homme seul. Donc je l'ai écrit un 11 décembre 2008. Devenir seul comme un seul homme. Perdre ce double regard sur l'autre. Tout, presque tout, et plus aussi. Plus rien, juste le mot souvenir, plein de souvenirs, presque trop, le trop plein de souffrances. Ensemble, ne fait plus qu'un au loin, bien trop loin. L'autre part, perdu d'avance dans un monde imaginaire, l'un reste dans le sien, encore debout pour l'autre, mais déjà hors la vie, sans plus de toi, de loi. Ce soi-disant Dieu devenait le moins bien-disant en séparant cette vie en 2 morceaux illégaux. Pourquoi ? Pour qui ? Pourquoi ? Elle, lui, comme une histoire qui se coupe en 2 malgré eux. Elle, belle, devenue l'autre, lui perdu, séparé d'elle. Des départs, des retours et des détours. Elle ne voyait plus son lui, ou presque. Un chemin qui se sépare en 2 ornières et où chaque elle et lui en prennent leur contraire pour aller vivre des vies différentes, lointaines, et pourtant si proches à la fois. Voilà. C'est toujours dans des moments comme ça, vous voyez, qu'on écrit des choses tristes. Parce que ça fut triste, ça, quand même. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai eu toute cette période où j'ai écrit beaucoup de poèmes sur ce qui se passait entre nous deux, sa maladie, et puis mon isolement. C'est-à-dire que je me retrouvais tout seul à la maison. Hein. Mais bon, je ne vais pas tout vous lire, parce que après vous risquez de chialer. Alors, on n'avait pas chialé à cause de moi, non. Hein. Je ne suis pas là pour vous faire chialer, d'ailleurs. Hein. Bon, je suis là pour vous faire des choses marrantes, hein. Alors attendez, je vais en chercher un. Non, pas celui-là. Ah, la femme flamande. Ah oui, en 2011. Ah, j'ai écrit ça à Anvers. Bah, c'est normal, Anvers, c'est flamand. Hein. J'avais pas écrire ça à Marseille. La flamande m'avait offert une bassine de graisse de phoque et quatre poils d'un éléphant solitaire du zoo d'Anvers. Elle pensait que j'avais attrapé le mal des singes hurleurs dans la cage aux folles. Alors que ma voix avait pris un mauvais tournant à la suite d'une cuite au jus de champignons macéré dans de l'urine d'un jeune et faible mandrille, c'est-à-dire un jeune singe. Hein. Depuis, j'hurlais comme un gosse qui se coince le doigt dans la porte. La flamande, presque éteinte par la limite d'âge, m'avait prescrit cette potion au lever du soleil, tout en me laissant coucher sur le côté gauche pour faire pression sur mon cœur, au moment où elle passerait pour me déborder afin de découvrir ma partie rose. Au bout de 5 jours, outre le corps vidé, ma voix ressemblait à un hachoir rouillé par un jus de viande acidulé. Elle tentait de me refaire ingurgiter de l'huile de coude pour au moins retrouver le cri du gosse qui hurle, mais rien n'y fait. La femme flamande commença à trouver cela bizarre alors que, par voie de conséquence, sa recette réussissait à 99%. J'étais l'unique 1% de son échec en maths et en stats. Elle me pria de ne plus m'adresser à elle, afin de ne pas être inscrite dans des statistiques officielles. Il me fallait revoir mon marabout préféré, celui qui parlait des feuilles de baobab pour retrouver la voix qui me ressemblait le plus, juste avant de pénétrer dans le zoo, d'Anvers. Voilà. Hein. Ça a été dur. Hein. Ça a été dur, cette période-là, je peux vous le dire. Hein. Je la maudissais, la femme flamande. En plus, elle voulait pas continuer à me donner le remède qu'il me fallait, quoi. Tout ça parce qu'elle voulait avoir 100% de statistiques réussies. Hein, c'est incroyable, ça. Oh là là. Bon, alors, il nous reste encore un peu de temps. Hein. Allez, un petit prévert. Il va pas durer longtemps. Il dure 2 minutes 32. Fou de misère.
Fou de misère. Fou de misère. Cavalier d'abattoir. Dame des Halles. Abandonnés, reines et rois du plus haut du pavé. Encore une fois écroulés, naufragés, désarçonnés parmi tous les débris d'une trop vieille épave. Radeau de la misère, échoué et médusé. Jeu d'échecs, bois pourri, damier percé. Fou de misère, reines et rois du plus haut du pavé. Cavalier d'abattoir, dame des Halles abandonnées, reines et rois du plus haut du pavé. Pourtant, malgré le désespoir, ils poursuivaient leur vie et voulaient la gagner. La vie qu'ils poursuivaient, c'était leur vie rêvée. Fous de misère. Mais leur vraie vie, de plus en plus désespérée, leur vie de chien fidèle et de chien policier, leur petite meute personnelle, les traquer, les pourchasser. Fous de misère. Encore une fois, la misère qui les affolait, pour les calmer, tranquillement les a fusillés, là, sur les berges de la Seine, dans les ruines des plus vieux pavés. Non, sans leur avoir gracieusement octroyé le plus petit dernier mégot du plus pauvre des condamnés, avec le dernier verre de l'aigre vin de mai. Et le soleil, compatissant à leur souffrance, généreusement leur a donné le coup de grâce. Et dans leur sommeil torride, leur plus accablant souci reste en rade. Et là, ce coup de grâce n'est qu'un instant donné. Le soleil, à son heure, doit les abandonner. Et dans les derniers feux d'un tendre crépuscule, la police du fleuve bientôt va les siffler. Fous de misère, arrachés au sommeil, pauvre gibier trop tôt levé, le cœur battant très mal, comme un mauvais réveil à peine remonté, en courant sur les berges sans savoir où aller. Ils parleront tout haut, chacun pour soi tout seul. Mais chacun dira la même chose, triste et folle. La jeunesse perdue, ou même jamais eue, mais jamais oubliée. Fous de misère, malgré tout, attaché à la vie, un espoir enfantin leur tiendra compagnie.
Voilà. J'aime bien la voix. J'essaie de l'imiter, mais j'y arrive pas. Alors, je m'imite pas son texte. Hein. Je m'inspire. Mais j'aimerais bien prendre sa voix, quand même. Mais j'y arrive pas. Pourquoi ? Je sais pas. Peut-être qu'il a moins fumé que moi, peut-être moins bu, je sais pas. Bon. Allez, là, j'ai un petit poème, du 1er septembre 2009, à 20h21. Ça s'appelle « Le bal des folles ». La serpillière, javelisée, faisait son va-et-vient dans la grande salle de la Salpêtrière. La Salpêtrière était un asile de fous avant de devenir un hôpital. La mi-carême attendait les folles, les hystériques, les épileptiques, les hypnoptiques, se pomponnaient le museau tordu par la démence. Elles en arrivaient toute l'année en rongeant leur camisole. Le bal des folles prenait l'allure d'un bal des débutantes avec des chevaliers mâles en moins. Oui, parce que les hommes n'avaient pas le droit. Ils restaient dans leur chambre, fermés à clé, pour pas qu'ils emmerdent le bal des folles. Il n'y avait pas le bal des fous. C'était l'époque où Azelmer n'était pas encore né. Et Freud n'avait pas encore fait le serment d'Hippocrate. Oh, ça aurait pu dire d'Hippocrite, mais bon. L'époque des fous heureux, celle de la démence, tellement précoce qu'elle s'appelait par son petit nom « folie ». Les loges souterraines ne servaient plus, les folles à moitié nues se rhabillaient, les rats ne rongeaient plus les pieds des folles pour les laisser enfin danser. Les chaînes ne tintaient plus pendant le quadrille du Mardi Gras, le pied devenait souple, débarrassé de ses fers, le pas léger se perdait par les trois temps valsés. La folle du pavillon B en Cendrillon dansait avec une sorcière le temps d'une polka éphémère. Les folles tournaient entre elles et son contraire. Les carafes de sirop et les gâteaux secs s'avalaient au rythme des pas cadencés. Les hurlements devenaient presque humains, malgré la folle du pavillon 4 qui chantait la Marseillaise à contre-courant. Puis vers 17h, la musique s'arrêta, comme un électrochoc, pour laisser place au sifflet des gardiennes, afin de finir ce bal par une dernière note un peu moins folle. Les fous, tapis dans leur loge, privés de bal, se calmaient de nouveau en entendant le silence revenir. C'était le 17 mars 1887, boulevard de l'Hôpital. Et en 1888, on inventa le bal des enfants épileptiques. Mais c'était déjà tout un poème. C'était déjà tout un poème, n'est-ce pas ? Voilà. Alors j'étais inspiré, je ne me souviens plus à cette époque-là. C'était quand même 2009, hein, ça fait un bail déjà. J'étais inspiré par ce... Je pense que c'était la Salpêtrière, quand j'ai su que la Salpêtrière... Et moi, j'ai été à la Salpêtrière. Quand je suis revenu en urgence de Guadeloupe, parce que j'avais un abcès amibien au foie qui était resté, que là-bas, ils n'avaient pas découvert, en Guadeloupe. Et j'étais à la Salpêtrière. Et eux, en une semaine, ils m'ont donné un médicament. Le médicament, il a complètement anéanti l'abcès amibien. Alors oui, les amibes, hein, vous savez, c'est jamais où vous pouvez les choper. Je ne les ai pas chopés en Guadeloupe, il n'y en a pas. Mais comme j'étais en Afrique, dans les pays arabes, tout ça, ils se sont réveillés là-bas. Ouais. Au lieu de, ils auraient pu se réveiller en France, mais non, ils ont préféré se réveiller en Guadeloupe. Voilà. Bon, et Jaco, n'oublie pas, attention, il faut bien les faire cuire, hein, les ortolans fricassés. Il faut pas trop les faire cuire, il ne faut pas trop non plus les faire cuire juste à point. Regarde, je t'avais amené un livre de recettes de cuisine. Il y a la recette de cuisine des ortolans fricassés. Donc, tu la lis bien avant de les préparer. Hein. Va pas les louper, parce que ça coûte cher. Hein. Ah oui, ça coûte cher. Bon, allez, je vous laisse tous tranquilles pour ce week-end. N'oubliez pas qu'il y a, deux grandes rencontres sur Périgueux. Il y a les associations qui se réunissent à la fois sur Périgueux et ici à Chamiers, directement où il y a la radio. Vous voyez, hein, à côté du stade et à côté des tennis. Voilà. N'oubliez pas de venir, hein, quand même. Ça nous ferait plaisir de vous entendre. Parce que là, vous nous écoutez, mais nous, on ne peut pas vous écouter. Pour une fois, on va pouvoir vous écouter. Allez, bis. Allez, à dimanche, à samedi et dimanche.